Bon, alors, pour les mini-mémoires, quels sont ceux d'entre vous qui n'ont pas encore lundi, voilà. Donc, c'est une, ça commence à devenir une minorité, mais il faudrait que voilà, vous y songiez maintenant rapidement, hein, qu'on puisse fixer un sujet. Et alors, pour les autres, j'ai été en contact avec vous, plus ou moins par mail, voilà. Et alors, ce que je voudrais, c'est que dans les... d'ici Noël en partie, et tous les cas, dans le courant du mois de janvier au plus tard, mais essayons d'étaler ça pour que tout le monde... Oui, si vous m'écrivez des mails, ce serait très sympathique de ne pas m'écrire des mails le dimanche à 8h du soir et me laisser le temps de vous répondre pour le lundi qui suit, parce que voilà, c'est plus efficace si vous m'écrivez le jeudi, comme ça vous pouvez lire ma réponse avant. Et je peux vous fixer un rendez-vous pour le lundi matin en particulier, ce qui est marrant. Donc essayez d'utiliser le temps de manière plus rationnelle. Alors, cela dit. Donc j'aimerais vous voir individuellement à partir de... dans les semaines qui viennent et encore plus à partir de janvier, sans doute le mercredi après-midi, essentiellement, pour qu'on puisse discuter de manière plus approfondie sur chacun des mini-mémoires. Et pour en vue de cette discussion, il faudrait que vous me donniez donc un plan. Au moins déjà des choses relativement développées sur la manière dont vous voulez le concevoir, une bibliographie et une bibliographie raisonnée, c'est-à-dire une bibliographie des choses que vous, dont vous pensez qu'il faut que vous les lisiez, que vous les ayez lues, et une bibliographie des choses que vous avez lues. Et si vous n'arrivez pas à localiser les ouvrages, les articles dont vous pensez qu'il faudrait que vous les ayez lus, vous me signalez, et puis j'essaierai dans la mesure du possible de vous aider à les trouver. Ce n'est pas toujours tout simple, mais c'est nécessaire. Hein. C'est pas parce que les livres sont difficiles d'accès, peuvent être difficiles d'accès, qu'il faut ne pas les renoncer dans le livre. Donc, le travail de la bibliographie est loin d'être un travail secondaire, c'est-à-dire que c'est un travail essentiel de savoir quoi lire, quoi ne pas lire, etc. Et si vous ne savez pas, on en a une impression en lisant des choses, si, pour le principe de sélection, là je vous aiderai à déterminer ce que vous devez avoir lu chacun pour... sujet de corps, mais il faut que vous le prépariez. Donc prévoyons ça pour, disons que ça s'étale de maintenant ou de la semaine prochaine jusqu'à la fin du mois de janvier. Et à partir du mois de janvier, vous commencez, je suppose, à travailler de manière plus intense. Et là, je serai à votre disposition à un certain nombre d'heures par semaine pour qu'on puisse en parler dans les bibliothèques. D'accord ? Voilà. Alors, je vous ai apporté un livre que vous êtes... Alors, je voulais vous donner d'abord la référence exacte.
Oui, c'est un peu concrètement, à la fin du premier semestre, on vous rendra un travail partiel.
Ce qui m'importe, c'est d'avoir discuté avec vous sur la base d'un travail... c'est moins la réalisation d'un travail partiel que la fixation du cadre dans lequel vous allez travailler.
Et ça sera un travail développé sur l'année entière,
si je comprends. Oui, le travail développé sur l'année entière, c'est une étape.
D'accord.
Donc, il faut que cette étape soit une vraie étape.
Oui, bien sûr.
Alors, je vous donne la référence exacte de l'article de Barnes, auquel j'ai fait allusion la dernière fois. Ça s'appelle... C'est paru dans la revue, c'est en anglais, c'est paru dans la revue, l'article sur le shift. Euh, 1971-1979. Donc c'est cet article, si vous voulez, sur la base duquel ensuite Patricia Kerr a bâti son interprétation de Parménide, un livre que je vous ai cité la dernière fois, Parménide's Legacy, The Legacy of Parménide. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je voudrais vous faire circuler un recueil d'études sur les présocratiques qui est assez utile. Vous trouvez un certain nombre d'articles fondamentaux. C'est un recueil qui est déjà assez ancien, puisque il remonte à 1974, donc beaucoup d'autres choses plus importantes après, mais néanmoins, ça vous donne un certain nombre d'articles fondamentaux sur différents présocratiques. Et sur différentes questions présocratiques. Ça contient des articles que beaucoup d'entre vous pourront avoir utilité à lire. Et le livre contient également une bibliographie relativement actualisée, puisqu'il y a eu une réédition de ce volume, c'est celle que je vais vous faire passer, en 1992. Voilà. Donc c'est un instrument de travail utile que vous avez gardé à faire passer pendant que je continue. Alors, le. Celle de la relation entre les deux parties du poème de Parménide. D'une certaine manière, dire les choses comme ça, c'est entrer dans une problématique qui a été longtemps relativement négligée et qui, dont on peut considérer qu'elle a été négligée dès l'Antiquité. Parce que ce que l'Antiquité a retenu de la doctrine de Parménide, et on a retenu même matériellement, c'est, comme je vous l'avais dit, là, essentiellement la première partie du poème, cette partie d'ontologie. Et quand on parle de Parménide, on parle, à juste titre naturellement, de l'ontologie de Parménide. Mais je fais essentiellement référence à la première partie, en ne tenant pas nécessairement compte de la deuxième partie, qui est une cosmologie de type classique, et si on le dit volontiers, c'est non seulement parce qu'on l'a beaucoup moins bien conservé que la première partie, on a des traces beaucoup plus restreintes. Mais aussi, d'une certaine manière, parce que c'est une partie qui est ingérable du point de vue de la première partie du poème. C'est une partie qui pose un problème philosophique. On est endetté philosophiquement par l'existence de cette seconde partie. On est gêné par l'existence de cette seconde partie, et cette gêne, elle s'explique, elle se manifeste dès l'Antiquité. On peut voir l'expression de cette gêne déjà dans le fait que les successeurs de Parménide, les successeurs officiels de Parménide, ceux qui se réclament explicitement de Parménide, adoptent la thèse de Parménide, quitte à la modifier sous certains aspects, comme Némissus d'un côté, Zénon de l'autre, ces successeurs de Parménide n'ont plus rien dans leur pensée qui corresponde à la seconde partie du poème. Si vous prenez Mélissus, dont nous avons vu l'importance relative la dernière fois, vous vous souvenez que Mélissus est celui qui précisément modifie un des prédicats de l'être en disant que l'être est infini et non pas fini. J'en avais parlé, et c'est celui aussi, selon Barthes, qui, pour la première fois, prend le terme « un » chez Parménide au sens de « un » numériquement. La thèse de Barthes, vous vous souvenez, une partie de la thèse de Barthes étant, vous vous souvenez, que chez Parménide, à la différence de ce qui se passe chez Mélissus, « un » n'a pas le sens de « un » numérique, mais de « un » homogène, l'homogénéité, l'unité interne, si vous voulez, et non pas l'unicité. Donc, en tous les cas, ni Mélissus ni Zénon ne s'engagent dans une physique. Il n'y a pas de physique chez Mélissus, il n'y a pas de physique chez Zénon. Il y a chez Zénon des paradoxes dont l'interprétation la plus vraisemblable est qu'ils tendent à soutenir au moyen de raisonnement par l'absurde, la thèse apparemment absurde de Parménide. C'est-à-dire Zénon élabore un instrumentarium dialectique vient en aide à la thèse de Parménide en montrant les absurdités qui découlent de l'hypothèse contraire. L'interprétation, du moins du paradoxe de Zénon, que Platon donne dans son propre Parménide, au début de son propre Parménide, et ce que je crois fondamentalement juste, mais qu'il y ait des discussions à ce propos. Donc, mais en tous les cas, jamais Zénon ne fait de la physique. Même il fait tout le contraire de la physique. Je veux dire, il s'efforce de montrer que, comme vous savez, entre autres, Achille ne rattrapera jamais la tortue. Alors ça, ce n'est pas faire de la physique, ce n'est pas faire de la physique. Parce qu'évidemment, Achille rattrapera la tortue. Physiquement. Et ça, Zénon, n'en a qu'une. Et en tout cas, il n'y a aucune cosmologie, il n'y a aucune théorie du mouvement, il n'y a rien de tout ça chez Zénon. Et la même chose est vraie de Mélissus. Mélissus est un auteur dont on sait qu'il a réécrit la première partie du poème de Parménide. Il l'a réécrit d'ailleurs de manière très différente. Il l'a réécrit en prose, il l'a réécrit avec, pour ce que l'on peut en saisir, des argumentations qui sont développées de manière beaucoup plus systématique que chez Parménide. Ça serait très intéressant, ça serait un travail possible, de confronter, ce que Mélissus fait des prédicats de l'être avec ce que Parménide fait des prédicats de l'être. Mais en tous les cas, il est dans la même logique, il est dans le même esprit, il refait ce que la première partie du poème de Parménide fait, mais refaisant ce que Parménide a fait dans la première partie de son poème, il ne s'engage pas dans une physique. Il n'existe pas de physique mélissienne. Il n'existe pas de physique zénonienne. Et donc, d'une certaine manière, c'est chez les successeurs même de Parménide, chez les éléates eux-mêmes, que le problème que représente la coexistence chez Parménide d'une ontologie avec une physique qui semble en rupture par rapport à elle, se manifeste par simplement l'abandon de la physique. Aristote, quand il présente Parménide, dit que Aristote parle de la seconde partie du poème de Parménide, la différence de Platon, par exemple, fois un verre qui en provient, mais il n'en touche pas vraiment mot. Aristote dit que Parménide a dû faire une concession au phénomène. La présence de la seconde partie du poème de Parménide s'explique par une concession faite au phénomène. Une concession faite à, au fond, à quoi ? À ce que Parménide dénonce dans le fragment 7 comme l'habitude, l'expérience, le recours à l'œil, à l'oreille, etc. Il faut bien en parler parce que c'est quand même ce dans quoi nous vivons. Mais c'est de l'ordre de la concession. Et le mot même de concession montre que pour Aristote aussi, il y a une rupture entre la première partie du poème et la deuxième partie du poème. Bon. Alors, il y a des stratégies interprétatives qui ont été, j'ai déjà commencé à vous en parler la dernière fois, qui ont été développées pour montrer que cette tradition d'interprétation qui insiste sur l'existence de cette faille chez Parménide entre l'ontologie et la physique. Est une faille fictive, et que, en réalité, les deux parties du poème présentent un degré d'homogénéité beaucoup plus grand que celui qu'on a supposé, qui tend à donner une interprétation, disons, unitaire du poème de Parménide, et le premier à avoir vraiment. Il fait quelque chose d'important en ce sens, je vous avais déjà cité la dernière fois, c'est Reinhardt, dont vous trouvez entre parenthèses dans ce volume un extrait traduit en anglais, c'est un extrait de ce livre que je vous avais cité. Donc si vous n'avez pas directement extrait accès à l'allemand, parmi une thèse de Geschichte de la philosophie, vous pouvez au moins consulter cet extrait qui porte précisément sur la relation des deux parties de Paul et Parménide. Et c'est Reinhardt qui a, pour la première fois, attiré l'attention sur le fait que les deux parties devaient, d'une certaine manière, se lire ensemble. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour accepter que la pensée de Parménide soit une pensée, en effet, scindée. C'est-à-dire, je suis de l'opinion que, d'une certaine manière, ce qui est important chez Parménide, c'est précisément l'existence d'une rupture entre l'ontologie et la physique. Je pense que c'est ça le grand truc de Parménide qui le rend important. Il y aurait deux. Comme je vous l'ai dit, deux voies à suivre ici dans l'exploration de la thèse contraire. Il y aurait la voie phénoménologique qui a, à la suite de ce que Reinhardt a fait, constamment insisté sur le fait que, au fond, le monde tel qu'il est ne peut pas être un monde fictif, déchu, séparé de l'être, qu'il doit y avoir un moyen de lire la seconde partie du poème de Parménide dans un horizon phénoménologique qui permette une continuité entre les deux parties du poème. Et ça, c'est un travail qui est entièrement à faire, c'est-à-dire je pense que ça n'a jamais été fait sérieusement, ni même commencé à être fait. Ça, c'est un très beau sujet de super mémoire ou de thèse. Et puis, il y a la tradition analytique qui, curieusement, sur ce point, rejoint très exactement la tradition phénoménologique, mais par un tout autre moyen. Qui est, à mon avis, est voué à l'échec, et simplement je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est voué à l'échec. Alors, celle qui a le plus. Alors, je vous rappelle très brièvement les étapes de cette lecture possible, cette lecture unitarienne possible des deux parties du poème de Parménide. Une fois que l'un de Parménide n'est plus un numérique, c'est-à-dire que l'ontologie n'est pas nécessairement une ontologie de type moniste, mais peut être une ontologie de type pluraliste. Mais à partir du moment où l'être parménidéen n'est pas un numériquement, il peut être pluriel numériquement. Si l'être de Parménide est pluriel numériquement, pourquoi ne serait-il pas représenté par ce que Parménide décrit au début de la deuxième partie du poème comme, comme des éléments, comme des quasi-éléments, sans employer le mot d'élément, parce que les éléments, que sont la lumière et le feu, la lumière et l'obscurité, les éléments répondent à toutes les caractéristiques du de l'être parménidéen. Ce sont des tout, ils sont homogènes, ils sont identiques à eux-mêmes, ils sont pleins, ils ne naissent pas et ne meurent pas, c'est leur détermination la plus importante. En tant qu'éléments, ils ne naissent pas et ils ne meurent pas, ils sont toujours là de toute éternité. Ceux qui meurent et ceux qui changent, ce sont les composés de ces éléments, les configurations qui résultent du regroupement, du mélange de ces éléments. Et naturellement, les éléments survivent aux compositions et décompositions partielles dans lesquelles ils entrent. Ils survivent aux compositions dans lesquelles ils entrent. Donc, ils ne naissent ni ne meurent. Le seul prédicat qui fait vraiment problème, c'est celui de la mobilité, parce que, naturellement, si on dit que l'être est immobile, les éléments semblent ne pas pouvoir répondre à cette exigence d'immobilité, pour la simple et bonne raison que, pour pouvoir donner lieu aux composés dont ils sont les éléments, ils doivent se mouvoir, doivent être mobiles. Et de fait, la deuxième partie du poème de Parménide, non pas dans les vers que je vous ai distribués, mais dans des fragments qui viennent un peu après, dans le fragment 12 notamment, si vous regardez une traduction, dans le fragment 12, Parménide, après avoir parler des éléments, c'est la fin du fragment 8, nomme la force qui unit ces éléments, il la présente comme une force de mélange, et cette force de mélange est une déesse anonyme également, qui se caractérise par le fait qu'elle a quelque chose à voir avec Aphrodite, avec la déesse de l'amour, Parménide précisait, dans un vers qu'on a conservé, que le premier enfant de cette déesse, qui encore une fois est anonyme chez lui, c'est Eros. Et Eros est très clairement conçu comme la force qui permet d'unir les contraires que sont la nuit et l'obscurité. Donc si vous voulez, la physique de Parménide repose sur ce triangle, les deux éléments d'un côté et une force d'union qui est représentée par une déesse capable, qui n'est pas identifiée à l'amour, mais qui est capable, dont la première production est amour, et donc qui a à faire quelque chose de spécifique avec cette force de réunion. Et donc les éléments se mélangent, et à partir de ce mélange d'éléments, eh bien, on assiste dans la seconde partie du poème de Parménide à la création du monde. Alors, ce qui est important, c'est la mobilité. L'argument de Patrice Accord pour défendre l'idée qu'il n'y a pas de discontinuité entre la première partie et la deuxième partie consiste à dire que quand Parménide dit que l'être est immobile, il ne veut pas nécessairement dire que l'être ne se déplace pas. Autrement dit, elle dit que immobile, ou si vous voulez, immuable, ce qui est peut-être une meilleure traduction pour le grec, qui est akineton simplement. Akineton ne touche, l'immuabilité ne touche pour ainsi dire que l'essence. Le feu est toujours feu. La nuit est toujours nuit. Elles ont beau entrer dans des composés, dans des mélanges, dans des proportions diverses, elles ne perdent pas leur identité. De sorte que l'immuabilité serait une immuabilité d'essence, si vous voulez, qui n'aurait, ou encore, pour le dire autrement, une immuabilité substantielle qui n'impliquerait pas le déplacement, étant donné que le déplacement ne fait pas perdre l'essence que l'on a. Le feu peut très bien se déplacer sans perdre sa qualité d'essence. Qualité essentielle d'être feu. Et elle fait remarquer que dans Homère, le terme akinetos peut se référer à des divinités dont précisément une des caractéristiques essentielles est qu'elles se déplacent. Elles sont akinetoi, ce qui les empêche pas de ne perdent pas leur être substantiel, ce qui ne les empêche pas de se déplacer très loin, voire de se métamorphoser, mais même dans la métamorphose, ils ne perdent pas leur essence d'être ce qu'ils sont. Ça, c'est l'argument. J'ai jamais compris cet argument. J'ai écrit à Patrice Acker, qui m'a jamais répondu sur ce point. J'ai jamais compris cet argument parce que Parménide dit explicitement vers l'ensemble que l'être est immobile dans le sens de immobile, pas seulement dans le sens de immuable. C'est quand il dit alors il reste en mon milieu, celui qui suit là. Où est-ce que c'est
en bas de la première page.
Avant-dernière strophe. Paragraphe.
Alors, il y a voilà, restant en mon milieu, et puis il y a autre chose qui est. Voilà, en haut de la page, de la deuxième page, toutes les choses que les mortels ont posées, ils n'ont pas la faute, persuadés qu'elles sont vraies, naître et disparaître, être et ne pas être, changer de lieu et modifier de couleur, et modifier sa couleur. Excusez-moi, dans cette traduction qui est approximative, il y a des erreurs, hein, parce qu'il y a un petit peu de graphique et même de traduction aussi, c'est une traduction que je suis en train de revoir, que je vous ai distribuée, qui est sujet à. Ne dites pas que c'est là que vous distribuez ça dans un cours, sinon c'est ma mort mortelle. C'est vraiment un instrument de travail. Mais voilà, donc très clairement, l'être est immobile. L'immobilité de l'être fait qu'il ne peut pas, à mon avis, être représentée par les éléments. La deuxième partie du poème, indépendamment même du fait que Parménide dit au début de la deuxième partie du poème, et ça c'est le deuxième argument massif, que il va parler d'un monde qui est, très curieusement, quelque chose comme issu de l'arbitraire des mortels. Alors, sur ce point, j'aimerais m'arrêter un instant. Je ne sais pas si on l'avait déjà vu, je ne crois pas. Vous me dites si je me répète, je ne crois pas qu'on l'ait abordé. Allez-y.
J'ai une question sur précisément le fait que l'être doit être l'ignoble, mais en tant que restant dans un lieu. Quand on dit que l'être reste dans un lieu, est-ce que ce n'est pas précisément avoir de l'être une approche physique?
Alors, c'est une bonne question. C'est pas celle que je voulais aborder, mais j'ouvre volontiers une parenthèse là-dessus. Ça me permet de dire un peu les choses dans un autre ordre que celui que je voulais dire, mais ça n'a pas d'importance. Vous vous souvenez que je vous ai dit au début que le problème de la première partie du poème de Parménide, c'était que on pouvait hésiter entre deux interprétations, une interprétation verbale du terme être et une interprétation objectale, si vous voulez, du même verbe être. C'est-à-dire qu'il semble que Parménide part d'une question qui porte sur le sens verbal du verbe être, et que la série des prédicats qu'il attribue à l'être pour le qualifier transforme peu à peu cette analyse de l'action d'être en objet qui est. Bon. Si ça est exact, le prédicat être dans un même lieu appartient évidemment à cette série, à ce type de prédicat, ou représente une série de prédicats, qui s'applique plus à un objet qu'on appellera physique, qu'à l'analyse d'une action verbale. Et donc, il y a ce que j'ai appelé la réification, le problème de la réification de l'être à l'intérieur même de la première partie du poème de Parménide. Finalement, je pense que Parménide résiste à cette réification et que, tout en la pratiquant, il résiste à cette réification et que l'indice de ce qu'il résiste à cette réification est le fait qu'il ne fasse que comparer l'être à une sphère. C'est-à-dire l'être n'est pas une sphère. Vous voyez, par exemple, chez Empédocle, que l'on verra, l'être est une sphère. Chez Parménide, l'être n'est pas une sphère, il ressemble à une sphère. Et j'interprète cette insistance sur la ressemblance comme l'indice de la conscience que, en dépit de la réification effective que provoque la série des prédicats de l'être à l'être, il convient de maintenir une distance critique, si vous voulez, à l'égard de cette réification même. N'empêche que c'est cette réification, alors là, vous avez, si c'était ça le sens de la question, vous avez tout à fait raison, cette réification prépare la physique de la deuxième partie. C'est-à-dire, l'être est déjà suffisamment physique dans la première partie, il est sur la voie de sa physicalisation, il est suffisamment sur la voie de sa physicalisation pour que s'il y a rupture, qu'il n'y ait qu'une rupture relative avec sa complète physicalisation dans la deuxième partie sous la forme des éléments. Donc, vous voyez, oui et non, mais oui. Euh, n'empêche que reste ce shibboleth, si vous voulez, cette marque distinctive, absolue, cette ligne de partage absolue entre le mobile et l'immobile. Là, je ne pense pas qu'on puisse la franchir. Un jour que Patricia Kurt sera à Paris, je serai ravi de l'inviter et qu'il fasse un séminaire là-dessus. Elle doit avoir des raisons, puisque j'ai peut-être mal lu son livre. Regardez, c'est une question qui m'intrigue beaucoup, parce que c'est quand même c'est le squelette de son argumentation. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais qu'on s'arrête une seconde sur le passage de la première à la deuxième partie, qui est un lieu crucial, naturellement, pour comprendre quelle est, dans la perspective de Parménide lui-même, la relation entre ontologie et physique. J'interromps le récit une, deux fois, et attention à la vérité. L'opinion mortelle qui s'ensuive, apprends-les en écoutant l'arrangement par la suite de mes paroles. Il y a un premier problème, une première question intéressante sur les opinions mortelles qui s'ensuivent. Je traduis de manière un peu lâche. Il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Il y a une interprétation extrêmement faible et une interprétation extrêmement forte. Entre lesquelles je ne suis pas vraiment décidé. L'interprétation faible consiste à dire, voilà, maintenant j'ai dit ce que je voulais dire de la vérité, qui est un récit digne de foi, qui comporte la certitude. Et par opposition à ce discours digne de foi autour de la vérité, que j'abandonne, et bien maintenant, dans un second temps, à partir de maintenant, à partir de là, j'aborde un autre type de discours qui consiste dans les opinions mortelles. Donc, qui s'ensuit est simplement la marque du passage d'un thème à un autre thème. Le grec est indécidable à ce point. La deuxième possibilité, c'est de donner un sens fort à s'ensuivre et c'est de dire que les opinions mortelles suivent, dans un certain sens, du discours même sur la vérité. C'est-à-dire qu'il existe une relation intrinsèque entre le discours sur la vérité et les opinions surmontelles qui en dépendent d'une certaine manière. Une interprétation forte. Alors vous trouvez par exemple une défense de cette interprétation forte dans l'édition de Jean Delac, que vous avez ici. Si vous pouvez la faire circuler si vous ne l'avez pas vue. Donc ça c'est la première chose. Alors, apprends-les en écoutant l'arrangement fallacieux de mes paroles. Vous remarquerez que fallacieux qualifie les paroles et non pas le monde sur lequel portent les paroles. On pourrait dire, voilà, Parménide dit que ces paroles sont fallacieuses. Certainement le fait qu'elles sont fallacieuses est en opposition avec un autre, avec le qualificatif de l'autre discours qui est digne de foi, mais peut-être elles sont fallacieuses pour, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles peuvent induire en erreur une manière où le discours sur la vérité peut ne pas induire en erreur. C'est-à-dire qu'il y a dans la matière même du monde quelque chose qui n'est pas nécessairement de l'ordre de l'erreur, mais la propension à l'erreur, c'est pour le dire ainsi. Et alors maintenant, il faut faire bien attention. Parménide dit, ils ont en effet, donc les mortels, fixé des formes. Deux, pour normer leur vis-à-vis, j'en ai parlé la dernière fois. Ah oui. Bon, alors comme ça n'est pas resté dans vos esprits, je vais le... C'est nécessaire que je le répète ou... Non. Donc je ne vais pas me réembarquer là-dedans, je le résume simplement. Ils ont fixé deux formes, pour le clarifier simplement, ils ont fixé des formes deux pour nommer leur visée dont l'une n'est pas nécessaire. Selon quoi ils sont dans l'errance. Je clarifie quand même, parce que ce n'est pas inutile. Il y a deux possibilités d'interprétation de mesure. Qu'est-ce qu'ont fait les mortels? Ils peuvent avoir fait deux choses. Ils peuvent avoir fixé des formes. Ces formes, c'est l'avenir, l'obscurité. Et le fait que les mortels fixent des formes, disons, le fait qu'ils fixent des formes entraîne nécessairement, du point de vue du grec, qu'ils le font de manière arbitraire. C'est-à-dire, ils l'ont fixé, pour ainsi dire, par décret. Ils ont posé des formes et cette position de forme ne correspond pas à une réalité. Donc, ou bien ils ont fixé des formes, c'est-à-dire que le feu et la nuit, en vérité, ne sont que des créations de l'arbitraire humain. On pose l'existence de formes, mais ces formes ne sont pas. Elles sont l'objet d'une simple thèse. Thésis. Et titento, c'est le mot grec pour fixer, poser. C'est souvent employé pour un nom ou une loi. On décrète une loi, on pose une loi, on crée un nom. C'est une création de type humain. Donc, on peut lire la phrase comme ça.
Pardon ?
Oui, oui, non, ça c'est uniquement la première. Oui. Ça c'est uniquement. Je n'ai pas encore parlé du deuxième. Ou alors, on peut dire. Ils ont fixé ces formes pour nommer. Pour nommer ce que Parmi appelle leur visée. C'est-à-dire que la position de ces deux formes, que sont la terre et que sont la nuit et la lumière, n'est que relative à une intention qui, elle, est erronée. Ce n'est pas la position des formes qui est erronée, c'est l'association de ces formes avec deux visées. Qui sont quoi? Parmi le dit presque, quand il ne le dit pas explicitement, mais il le dit presque quand il dit dont l'une, il ne la faut pas. Parce que la visée qu'il ne faut pas, c'est évidemment la visée du non-être. Donc, je résume. Deux opérations. On pose la lumière et la terre. Point. Ou bien, il y a deux opérations possibles. Ou bien on pose la lumière et la terre. Dans ce cas-là, si vous voulez, réduit à son schème le plus absurde, ça signifierait la terre et le... Pourquoi je dis toujours la terre ? La nuit, parce qu'Aristote dit la terre au lieu de la nuit, c'est une erreur. La nuit et la lumière sont des créations purement humaines. Résultent de l'arbitraire humain. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que il y a de la terre, il y a de la nuit, il y a de l'obscurité, il y a de la lumière. Et l'arbitraire humain consiste non pas à poser la nuit et la lumière, mais à associer la nuit et la lumière à l'être et au non-être. En l'occurrence, à faire de la nuit le représentant du non-être et de la lumière le représentant de l'être. En parenthèse, c'est une erreur fort commune. Qui a une longue histoire dans la tradition l'association de l'être et de la lumière en particulier. Donc, si vous voulez, de ne pas reconnaître que les deux opposés que sont la lumière et l'obscurité sont au même titre, en dépit du fait qu'ils sont des opposés, c'est-à-dire que leur opposition ne s'étend pas à l'être. Et ça, si c'est ça l'erreur des mortels, si l'erreur des mortels consiste dans cette association-là, elle peut parfaitement subsister. Oh, plus exactement, elle peut parfaitement être éliminée sans qu'on élimine en même temps l'obscurité et la lumière comme représentants de l'être. Vous voyez, et donc il y a Parménide ne serait pas en train de dénoncer, au fond, l'inanité du monde physique. Ou il ne dirait pas que le monde physique est une résulte d'une erreur humaine. Non, l'erreur humaine, elle est dans l'interprétation de la physique, c'est-à-dire elle est dans l'interprétation de la physique comme impliquant l'idée du non-être. Voilà, c'est ça le point. Là, je le dis clairement. C'est pas le monde qui est faux, c'est l'interprétation que l'on donne du monde si on ne conçoit la physique comme impliquant l'idée du non-être. Alors, une fois qu'on a dit cela, reste quand même le problème dont nous sommes partis, c'est-à-dire le problème de la mobilité. Parce que, même s'il est vrai, et ça, Parménide le dira explicitement dans des fragments qu'on a conservés de la seconde partie du poème, même s'il est vrai que la lumière et l'obscurité sont au même titre, c'est-à-dire que tout est plein d'être, d'une certaine manière. Il n'y a pas de place pour le non-être dans le monde qui est rempli de lumière et d'obscurité. Donc même si l'obscurité n'est pas le non-être, il reste que du point de vue même qui est celui de Parménide dans la première partie du poème, il y a au moins un aspect du non-être qui est nécessaire pour expliquer le monde physique, à savoir l'aspect du non-être qui, selon Parménide lui-même, est nécessairement impliqué par la mobilité. Vous voyez bien, donc, j'essaie de différencier, de vous dire deux choses. Hein. Je vous dis deux choses qui sont en tension l'une avec l'autre. Le fait qu'il soit faux de dire que le monde n'est pas, je pense qu'il faut continuer à penser que pour Parménide, qu'il est vrai de dire que pour Parménide le monde n'est pas, mais il n'est pas pour d'autres raisons que celles que l'on conçoit d'habitude, à savoir s'il n'est pas, ça n'est pas parce que les mortels ont inventé ces deux formes que sont la lumière et la nuit. S'il n'est pas, c'est parce que, selon Parménide, quelque chose qui est en mouvement ne peut pas ne pas présupposer une idée du non-être dont la première partie du poème exclut qu'on puisse le penser. Donc l'idée fondamentale de Parménide, c'est que toute pensée du mouvement implique une pensée du non-être, et que s'il est vrai que toute pensée du mouvement implique la pensée du non-être, et que le non-être soit impensable, alors il est impossible de penser le monde tel qu'il est. Autrement dit, les mortels font une erreur pour ainsi dire supplémentaire par rapport à ce qu'il est nécessaire pour dénier la consistance de l'être et du monde. Il localise mal la part de non-être qui est nécessaire pour penser le monde. La part de non-être qui est nécessaire pour penser le monde, ça n'est pas d'accepter la coexistence dans le monde de l'être et du non-être, de la lumière et de la nuit. La part de non-être qui est nécessaire pour penser le monde, c'est le non-être qui est associé à l'existence même, la possibilité même du mouvement. Alors, ça peut vous paraître bizarre, cette idée que le monde est constitué d'être et de non-être, que la lumière représenterait l'être et l'obscurité représenterait le non-être. Mais vous allez voir que dans une théorie qui réagit évidemment au poème de Parménide, qui est celle des atomistes, la question sera précisément de faire coexister à l'intérieur du monde, comme composant du monde, à proprement parler, atomise le nom d'atome, le non-être recevra chez les atomistes le nom de vide. Conceptuellement, le vide et le plein, le vide et les atomes, sont sur le même plan que l'erreur attribuée par Parménide au mortel, à savoir la coexistence dans le monde d'être et de non-être. Voilà, alors la question qu'on peut se poser évidemment, c'est celle de savoir est-ce qu'il est vrai qu'il est nécessaire de penser le non-être pour penser le mouvement. C'est ça la question. Est-ce que Parménide a raison de dire que l'être est immobile? Vous vous souvenez, la question s'était posée à propos de la question de la finitude, de l'infinitude de l'être, explicitement posée par Parménicius. Est-ce que Parménide a raison de poser l'être comme fini selon ses propres principes, comme je dis, ou bien ne faut-il pas dire plutôt que l'être est infini, illimité? Et Mélissus avait répondu que c'est une erreur de penser que l'être est fini, il faut penser l'être comme infini, parce que c'est précisément la finitude de l'être qui oblige à poser le non-être si on veut se le représenter comme fini, l'être fini par rapport à quelque chose d'autre qui est nécessairement non-être. Et l'idée de la finitude implique la pensée du non-être, disait-il, en répondant à Parménide. De sorte que si l'on veut vraiment exclure le non-être de l'être, il faut poser que l'être est infini. Parce que, encore une fois, s'il est fini, il ne peut être fini que par rapport à quelque chose d'autre que lui qui sera nécessairement non-être. Ça, c'est un argument. Donc, si vous voulez, ce que je veux vous suggérer, c'est que, déjà suggéré la dernière fois, ce que je vais vous suggérer maintenant, c'est que la liste des prédicats de l'être chez Parménide est révisable. Et non seulement elle est révisable, mais elle a été révisée. Elle a été révisée certainement historiquement sur un point par Parménicius. Elle a peut-être été révisée sur un autre point par le même Parménicius sur le plan de l'unicité. Elle pourrait être aussi révisée sur le plan de l'immobilité, de l'immuabilité. Et au fond, ce que je pense que les successeurs immédiats de Parménide ont fait, si on exclut les Éléates, disons orthodoxes, que sont plus ou moins orthodoxes, clair, l'éléatisme comme Mélissus et Zénon, mais à part Mélissus et Zénon, ce qu'ont fait les autres penseurs postérieurs à Parménide pour contourner la faille que Parménide avait instaurée entre ontologie et physique, que je maintiens, moi, sous cette forme un peu révisée par rapport à l'interprétation habituelle des vers que je viens de commenter, je maintiens, moi, moi. Donc, penseurs postérieurs ont fait, c'est de réviser la position de réviser la thèse selon laquelle l'être impliquait l'immobilité. Ça a des conséquences très très importantes. D'une certaine manière, c'est assez simple. Comment l'être peut-il être mobile? Eh bien, il suffirait de montrer contre Parménide que la mobilité n'implique pas le non-être. Il faut bien que la mobilité... La mobilité au sens de déplacement local. On ne parle que de ça. La mobilité au sens de déplacement local. On laisse de côté la mobilité dans un sens plus général qui peut inclure la mobilité substantielle, la transformation. Vous savez que Aristote distingue quatre formes de kinésis, le mouvement substantiel, le mouvement qualitatif, le mouvement quantitatif et le mouvement local. Je ne parle que du mouvement local. On peut se demander légitimement, est-ce qu'il est vrai que le mouvement local implique le non-être de la même façon que la destruction ou la naissance implique le non-être. S'agissant de la naissance ou de la destruction, on peut comprendre assez facilement pourquoi la naissance et la destruction impliquent le non-être. Simplement parce que avant de naître, on peut considérer que vous n'êtes pas, et on peut considérer aussi que après votre destruction, vous n'êtes plus. Et ce que vous êtes entre-temps, parmi vous refuserait le nom d'être. Au fond, c'est intéressant, Parménide, il n'a pas de concept pour nommer le statut ontologique de ce dont nous disons si naturellement qu'il est. Il faut bien se rendre compte des implications. Tu vois, Parménide n'a pas de vocabulaire pour vous, pour nous. Comme Platon non plus, d'ailleurs, dans la République. Vous n'êtes pas. C'est une banalité ce que je dis, mais c'est très important parce que ça vous montre le degré d'abstraction, le degré d'exigence de ces pensées. Alors, voilà, je reviens à la naissance et à la destruction. La naissance et à la destruction implique la pensée du non-être, ça on peut comprendre, et donc, étant donné qu'elles impliquent la pensée du non-être, elles ne sont pas pensables, et donc elles sont bannies des prédicats de l'être. La question que je pose, c'est simplement, est-ce que l'immobilité et la mobilité, plus exactement, est-ce que la mobilité implique une pensée du non-être de la même façon que la naissance et la destruction impliquent la pensée du non-être? Là, je crois que si on pose la question de cette manière, la réponse très clairement est non. C'est-à-dire que on peut parfaitement quelque chose qui est peut se déplacer sans cesser d'être ce qu'il est. Entre parenthèses, c'est l'argument de cœur. Pas, vous vous souvenez, c'est l'argument de Patricia Coeur. C'est-à-dire, simplement, Patricia Coeur voudrait que Parménide lui-même ait tenu ce raisonnement pour réconcilier les deux parties du poème, alors que je pense que c'est précisément ce que Parménide n'a pas fait, et que, en revanche, disons, les successeurs de Parménide ont fait. Ils l'ont fait, c'est là la difficulté, de manière beaucoup plus implicite qu'explicite. On n'a pas vraiment d'argument conservé. Et je pense que dans ce cas, si on n'a pas d'argument conservé, c'est qu'il n'existait pas d'argument. C'est toujours très difficile de tirer des conclusions ex negativo, mais je crois que si un argument avait été produit par l'un de ces philosophes, malgré la perte immense qu'on a subie, on aurait eu des traces, parce que ça aurait marqué suffisamment Aristote ou ses successeurs qu'ils le retiennent. On n'a pas d'argument, mais je pense qu'on n'a pas d'argument explicite, mais on a des arguments implicites. L'argument implicite étant que tous les successeurs de Parménide, encore une fois je parle des successeurs qui ne sont pas des éléates orthodoxes, tous les successeurs de Parménide à la fois acceptent l'interdit de Parménide, et ça, ils l'acceptent, je vous le montrerai la fois prochaine de manière nette par les formulations qu'ils emploient, ils acceptent l'interdit de Parménide, et Parménide étant que on ne peut pas penser le connaître, ils acceptent l'interdit de Parménide, mais ils refusent la conséquence que Parménide avait liée à l'acceptation de cet interdit, à savoir, ils refusent l'impossibilité du mouvement, et même ils acceptent le mouvement comme étant la chose la plus naturelle du monde, pour ainsi dire. Le mouvement prenant le plus souvent la forme, mais pas exclusivement, la forme du mélange. C'est-à-dire qu'on accepte que ce qui est peut se mélanger. Et Anaxagore, par exemple, pour reprendre chez lui, dit dans un fragment, les Grecs ont tort de penser que les choses naissent et sont détruites. Ça, c'est argument parménidéen. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de destruction. Ce qu'il y a, c'est réunion et séparation des choses qui sont. Réunion et séparation des choses qui sont. Et réunion et séparation des choses qui sont, c'est précisément ce qui est rendu impossible par le prédicat de l'immobilité qui est imposé par Parménide à l'être. Voilà, alors, je voudrais terminer en revenant sur... alors, la prochaine fois, je vous montrerai rapidement, je ne vais peut-être pas m'étendre très longuement, mais je vous montrerai rapidement à propos d'Anaxagore, peut-être, mais surtout à propos de Leucippe et de Démocrite, à propos des atomistes, comment ils ont s'opère la révision de Parménide. Je voudrais revenir très rapidement à ce qui, pour moi, reste, ce que j'ai appelé la faille et la grandeur, à la fois la faille du scission, si vous voulez, de la théorie de la thèse de Parménide, pour m'interroger avec vous sur le statut possible du monde et de la physique chez Parménide. Oui.
J'ai un problème de compréhension.
Oui.
Vous avez dit que les successeurs de Parménide avaient accepté la théorie de Parménide qui a l'incapacité de penser le monde. Mmh. Vous avez dit tout à l'heure que les atomistes avaient admis que le vide qui était l'équivalent du monde-être.
Eh bien, on verra la prochaine fois, mais c'est le cas. C'est-à-dire que c'est le cas. Là, ça serait trop long pour... Mais c'est une très bonne question. Alors voilà, on est on a affaire, voilà, ma position, si vous voulez, c'est qu'on a affaire avec Parménide à un monde qui, premièrement, n'a pas de statut ontologique ferme, dans la mesure où, contrairement aux tentatives phénoménologiques et analytiques d'imposer une unité aux deux parties du poème de Parménide, et alors, de ce point de vue-là, il faudrait lire, et ça serait un travail à faire, le dernier ouvrage de Jean Bollac, le Parménide qui est en train de circuler, parce que Jean Bollac ne pense pas qu'il y ait, d'une certaine manière, il s'inscrit dans la tradition de ceux qui pensent qu'il y a une continuité entre les deux parties du poème, une continuité forte entre les deux parties du poème. C'est intéressant d'étudier de près cette interprétation. Donc, contrairement à ces lignes de lecture unitaire des deux parties du poème, je pense que la faille subsiste, et qu'il est important que la faille subsiste, et même que, d'une certaine manière, le poème de Parménide est écrit pour mettre en évidence cette faille. Ça pose le problème de, disons, justification philosophique de l'existence de cette faille, parce que j'ai essayé de vous suggérer que la justification philosophique de l'existence de cette faille tient entièrement et uniquement à la manière dont conçoit le mouvement, la relation entre mouvement et non-être qui est contestable. Mais ce sur quoi je voudrais ajouter un mot maintenant, c'est sur la relation positive entre l'ontologie et le monde. Le monde n'est pas pensable ontologiquement, mais comment est-il pensable? Quel est le statut, on a du mal à dire ontologique, quel est le statut quasi-ontologique, quel est le statut du monde? Encore une fois, le monde n'a pas le statut d'une simple erreur et ça n'est pas une simple erreur des mortels parce que les mortels sont prisonniers d'une erreur extrêmement spécifique que Parménide localise comme telle, à savoir cette association entre lumière, obscurité, être et non-être dont je vous ai parlé tout à l'heure. N'empêche qu'il faut s'interroger sur le statut de ce monde. Qu'est-ce que c'est? Et là, ma conviction personnelle, c'est que Parménide a déjà une conception qui est fondamentalement identique, structurellement et fondamentalement identique à celle de Platon, dans la République en particulier. C'est-à-dire qu'il existe entre l'être et le monde une relation de modèle à image. Qu'il existe une relation de similitude entre l'être et le monde. Chez Platon, cette relation de similitude a un nom particulier. La participation. La participation, c'est un long discours à l'intérieur de Platon lui-même. Platon n'est pas très très content de la participation. Il y a beaucoup de textes qui montrent que le terme de participation est la solution platonicienne à un problème qui ne tient pas du tout pour résolu. Et Platon ne cessera de s'interroger à partir du Phédon sur le mode de relation que l'on doit poser entre ce qui est au sens plein, c'est-à-dire les formes, et ce dont on ne peut pas dire qu'il est, précisément parce qu'il ne comporte pas les attributs essentiels qui sont ceux des formes ou de l'être. Donc, la participation, si vous voulez, c'est une réponse platonicienne. Il ne faut pas penser que ce soit une réponse non aporétique. Platon est parfaitement conscient du fait que la participation implique nombre de problèmes. Le texte le plus clair à ce propos se trouve dans le Parménide de Platon, qui illustre tout, qui développe de manière absolument fantastique toutes les difficultés qui sont liées même au terme de participation. Mais disons, c'est le nom de la solution platonicienne, c'est le nom à laquelle on peut se référer pour dire dans quel sens va Platon. Il y a une participation du monde de la doxa, du monde du devenir, au monde de la contingence. Chez Parménide, il n'y a pas de concept correspondant à la participation, c'est-à-dire la relation entre le monde de l'être et le monde du devenir n'existe que sous deux formes. Sous la forme minimale de la juxtaposition de deux discours dont la relation l'un avec l'autre est problématique, à savoir celui de la première partie et de la seconde partie. C'est pour ça que c'est tellement important de dire que Parménide a deux parties. Parce que l'essentiel, c'est la relation des deux. Le problème philosophiquement le plus intéressant, c'est la relation des deux. Donc le fait même qu'il y ait juxtaposition, c'est déjà une forme d'expression du problème, même si ça n'est pas une expression conceptuelle. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, l'essentiel de Parménide disparaît chez Pémissus et chez Zénon, qui éliminent le problème, le mettent de côté. Donc ça, c'est bon. Et l'autre chose importante, c'est de voir quelle est la relation, disons, concrète qui s'établit entre le monde de l'être et le monde physique. Et là, la remarque que vous avez faite tout à l'heure va exactement dans cette direction. C'est-à-dire que, déjà dans le monde de l'être, il y a, à cause de la réification de l'être, comme une anticipation du monde physique. Et alors, ça serait très intéressant d'étudier dans la première partie du poème tous les termes qui vont réapparaître dans la seconde partie sous la forme de leur réalité physique. Par exemple, il y a une égalité de force, n'est-ce pas ? Il y a une équipollence dans l'être qui se retrouve. Qui contient déjà en germe la possibilité du physique. Inversement, le monde lui-même conserve de nombreux traits qui sont les traits de l'être. Je voulais montrer sur le cas des éléments, qui sont si proches de l'être que l'on peut pratiquement y voir des représentants de l'être, sauf qu'ils bougent. Mais à part le fait qu'ils bougent, ils sont quand même éclairé par l'être. C'est-à-dire, ce qu'est un élément est rendu intelligible si on le confronte au modèle dont, par ailleurs, il s'écarte. De la même façon, pour donner dans les choses très très simples, le monde est rond, sphérique, comme la sphère à laquelle l'être ressemble. La Terre est ronde. Parménide est sans doute le premier à avoir dit que la Terre était ronde. Chez Anaximandre, c'est des cylindres. chez Alain Simen aussi. La rotondité de la Terre, c'est pas qu'il avait fait le voyage de Magellan, non. C'était que la Terre ressemble au cosmos qui ressemble à l'être. Et puis on pourrait multiplier. Alors ça a été une des grandes, un des grands accomplissements de Reinhardt, justement, qui s'est intéressé à la relation des deux parties, d'avoir commencé à dresser la liste systématique des rapprochements que l'on peut faire entre le monde de l'être et le monde physique. Et donc, d'une certaine manière, il est vrai que le monde physique a quelque chose de l'être. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'être, dans toutes ses caractéristiques, y compris les caractéristiques réifiantes de l'être, explique pourquoi le monde est comme il est. Mais si on veut conceptualiser ce qui est donné en fait par Parménide, je ne vois pas d'autre moyen, pas de meilleur moyen, que de recourir au concept de ressemblance, de similitude. J'ai moi-même employé dans les dernières minutes le mot de modèle, qui nous rapproche de Platon. Et donc je suis un partisan fanatique d'une interprétation platonicienne de Parménide. Et ça, c'est pas bien vu de nos jours, parce que Platon, c'est ce en deçà duquel il faut remonter pour parvenir aux paroles originaires de ce que la conceptualité, sous toutes ses formes, a trahi de manière acceptable. Oui, je caricature un peu, mais j'essaie de vous montrer pourquoi. Et ça, c'est le thème d'un débat, le platonisme de Parménide, si vous voulez, qui est, à mon avis, très important, au-delà de l'interprétation de Parménide lui-même, parce qu'il pose des problèmes relativement à la façon dont on interprète ces penseurs, dont je vous avais dit tout à fait au début qu'une des difficultés est évidemment qu'ils opèrent à un niveau de conceptualité qui est déficient d'une certaine manière, indifférencié par rapport à celui que l'on peut repérer chez Platon ou chez Aristote. Et si j'ai raison de penser que Parménide, c'est déjà Platon, quelque part, il ne faut pas non plus dire que Lacks dit ça, parce que sinon, je ne sors pas vivant. Deuxième raison de la Sorbonne, mais quand cette thèse sera plus affinée, je la risquerai à la publier. Et voilà, ça me semble extrêmement intéressant sur le plan de, disons, de l'histoire de l'herméneutique, de l'appropriation, de la lecture des philosophes, des moyens que l'on peut se donner pour interpréter, comment dire, ce que fait une pensée, même si elle ne dit pas qu'elle le fait. Hein, il y a une espèce de pragmatique de l'opération intellectuelle qui ne se réduit pas au concept qu'elle emploie. Et parfois, il peut être éclairant d'utiliser des concepts, disons, anachroniques, pour, quand on est placé devant la nécessité d'interpréter un texte qui pourtant ignore cette conceptualité. Je crois que le texte de Parménide nous donne un exemple très très puissant d'une telle nécessité. Et là, c'est par exemple un point de divergence très très grand que j'ai avec l'interprétation de Jean Polac, qui commence son livre par dire qu'il faut redresser en dehors de en deçà de Platon, qui est, disons, la même chose que Reinhardt disait déjà, que beaucoup d'autres ont dit, il faut redresser en deçà de Platon. Et moi, je vous dis quelque chose de très simple, il n'est pas si simple de redresser en deçà de Platon. Et dans le cas de Parménide, je pense en effet qu'une interprétation quasi-platonicienne, mais quasi est importante, naturellement, parce que je ne veux pas non plus vers de la Parménide, mais quasi-platonicienne est inévitable conceptuellement si on veut comprendre de quoi il s'agit vraiment dans le poème de Parménide. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire dans, dans ce champ. Je ne vais pas le continuer immédiatement. On aura du temps pour y revenir dans le courant de l'année si on a envie. Je serais ravi que ça inspire certains d'entre vous. Et je serais ravi de discuter avec l'un ou l'autre d'entre vous si vous avez envie de poursuivre cette thématique. Pour l'instant, là, je m'en tiens là. La prochaine fois, je vous expliquerai un peu comment Démocrite et le site entrent dans cette...